J'ai 40 ans, je me sens en pleine forme. Mais le suis-je vraiment autant que ça? Une des manières d'en savoir plus, c'est de lire ce livre, La santé des hommes après 40 ans. Et ce livre, signé par Laure Dasinière, journaliste de son métier, se veut sans tabou, Karine Joriot.
Oui, poids, sommeil, fertilité ou encore troubles de l'érection ou cancer. Ce livre vise à répondre de manière concrète aux questionnements des hommes sur leur état de santé, qu'il soit physique ou psychologique. Et il a beaucoup plu à Vanessa Christinet que j'ai rencontrée. Elle est médecin et elle reçoit essentiellement des hommes en consultation puisqu'elle est responsable du checkpoint de la fondation Profa à Lausanne. Mais au-delà de sa spécialisation, Vanessa Christinet s'est durant toutes ces années de pratique beaucoup intéressée à la prévention et la promotion de la santé dans sa globalité. Et pour elle, ce livre est important. Elle le conseille afin notamment d'éviter de se renseigner n'importe où.
Sur Internet, on trouve beaucoup de choses qui ne sont pas toujours basées sur l'évidence scientifique. Et donc, ce livre vraiment permet, je pense, de faire la part des choses entre ce qui vaut vraiment la peine d'être considéré et ce qui est des fioritures accessoires pour lesquelles on n'a pas beaucoup de preuves encore pour l'instant.
Justement, il est très vulgarisé et très complet, en fait. Il fait un peu le tour des questions qu'on pourrait se poser. C'est aussi pour ça que vous le conseillez ?
Oui, je pense que ça donne une bonne vision d'ensemble des questions qu'on peut se poser à partir de 40 ans et de ce qu'il faudrait faire pour être ou pour rester en meilleure santé possible. Et l'avantage des fois d'avoir une sorte de vision globale, c'est que ça peut peut-être permettre aussi de réduire une forme d'anxiété parce que ça permet de faire le tour un peu des différents problèmes qui pourraient survenir et qui peut-être ne surviendront pas, mais au moins d'avoir une sorte de perception des enjeux de santé généraux. Et ça, je pense que ça peut aussi permettre de réduire une forme d'anxiété pour certaines personnes qui seraient très anxieuses par rapport à l'âge qui avance, aux problèmes de santé qui pourraient arriver, sans savoir exactement de quoi il s'agit.
Un livre qu'on devrait tous et toutes peut-être aussi avoir sur notre table de chevet, si j'ai bien compris, Karine.
Oui, en tout cas, il mérite d'être parcouru parce qu'il est vrai qu'à partir d'un certain âge, on parle de la santé des hommes après 40 ans dans ce livre, donc ça concerne bien sûr également les cinquantenaires et au-delà. Mais qu'est-ce qui change réellement à partir de 40 ans? On retrouve Vanessa Christinet.
Alors, je suis pas sûre qu'on puisse dire que les choses changent à partir de 40 ans. Précisément, d'ailleurs, dans le livre dont on parle, c'est bien précisé que c'est très variable d'une personne à l'autre et que ça dépend de multiples facteurs. Le fait de devoir ou non procéder à un check-up à partir de 40 ans. Et toutes les personnes ne sont pas exposées au même risque. Qu'on soit un homme ou une femme, d'ailleurs, c'est certains facteurs spécifiques qui vont permettre à un moment donné de dire qu'il faudrait peut-être aller contrôler une chose ou l'autre. Mais c'est pas forcément un âge comme ça précis où tout d'un coup il faut faire des dépistages, en tout cas pas 40 ans. Il y a d'autres dépistages pour lesquels il y a des âges vraiment précis ou des recommandations précises. Il y a des recommandations des ligues de lutte contre le cancer par exemple, mais sinon c'est pas vraiment un âge qui détermine comme ça de but en blanc la nécessité de faire un check-up complet.
Justement, ces dépistages-là, de quoi on parle, hein, on pense souvent au cancer de la prostate, notamment. Qu'en est-il justement de ces dépistages à partir d'un certain âge? Lesquels sont indispensables? Lesquels ne le sont pas forcément?
Alors, ceux qui sont recommandés et de façon systématique par des programmes nationaux, ça concerne surtout le cancer du côlon à partir de 50 ans, mais qui concerne aussi les femmes. Sinon, d'autres dépistages comme ça, systématiques, organisés par des programmes nationaux, il n'y en a pas tellement. La prostate, c'est un sujet assez compliqué et c'est pas un dépistage qu'on fait comme ça de façon systématique chez le tout venant. Il faut vraiment discuter des bénéfices-risques du dépistage et c'est vraiment à discuter avec son médecin généraliste ou avec un spécialiste, un urologue.
Qu'est-ce que vous entendez par bénéfice-risque de ce dépistage-là ?
Donc le principe du dépistage, c'est en fait d'aller chercher quelque chose chez quelqu'un qui est en bonne santé, a priori. Donc c'est le principe du dépistage. C'est pour ça que c'est assez difficile aussi, peut-être pour certains hommes, d'aller faire un dépistage. Parce que quand on est en bonne santé, on n'a pas forcément envie d'aller chercher des problèmes. Psychologiquement, pas. Enfin, c'est pas seulement si on est un homme. Toute personne qui est en bonne santé n'a pas forcément envie de penser à potentiellement qu'on puisse lui trouver un cancer ou autre chose. Et donc c'est une démarche qui est proactive de quelqu'un qui est en bonne santé, le dépistage, parce que c'est une chose assez spécifique en santé, qui est différente d'aller chez le médecin quand on est malade. Et donc on peut chercher plein de choses. Par exemple, il y a pas mal de questions qui se sont posées par rapport au dépistage du cancer du sein chez les femmes, puisqu'on dépiste avec des outils qui sont très sensibles, donc on va voir s'il y a des lésions, mais on va aussi voir si c'est d'autres choses. Et puis on va un peu surdépister des problèmes qui n'en sont peut-être pas. Et c'est ça l'enjeu du dépistage, c'est qu'il faut toujours bien comprendre ce qu'on cherche, la sensibilité du test qu'on fait et ce qu'on va trouver. Parce que l'enjeu du PSA, par exemple, dans le cancer de la prostate, on sait qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire monter le PSA. Et que
c'est quoi, le PSA?
C'est un marqueur du cancer de la prostate qu'on utilise en général pour doser le risque en fait, de cancer de la prostate, et qui a un marqueur ces dernières années qui est toujours un bon marqueur, mais qui est assez débattu, et dans le sens où il ne faut pas le faire chez n'importe qui, dans n'importe quel contexte, parce qu'on peut, selon la valeur de ce PSA, considérer qu'on a un risque pour le cancer, et ça peut induire des biopsies, et tout un stress psychologique, alors que finalement, en fait, ça n'est pas un cancer. Et c'est ça, les enjeux du dépistage. Il y a des méthodes de dépistage qui sont plus sensibles et plus spécifiques. Ça veut dire que si le test est positif, on sait qu'il y a un vrai risque avéré d'avoir un problème. Mais il y a beaucoup de tests de dépistage où le test de dépistage détermine un risque, mais il faut faire d'autres tests après pour confirmer ce risque. Et bien ça a un coût aussi, ça a un coût financier, puis ça a un coût psychologique aussi, parce que ça veut dire que des gens vont se dire « Ah ben mince, j'ai un cancer de la prostate », alors qu'en fait le test de dépistage, il permet pas de dire ça comme ça de but en blanc, juste avec une valeur de laboratoire. C'est pour ça que tout ça doit vraiment être discuté avant avec un médecin généraliste, ou alors avec un spécialiste, un urologue, qui eux ont beaucoup plus l'habitude de gérer ce genre de dépistage.
Discussion nécessaire avec son médecin, on a bien noté, Karine Joriot. D'autres maladies auxquelles il faut rester attentif peut-être?
Alors oui, malheureusement, on a envie de dire, et des maladies qui là aussi concernent davantage les hommes que les femmes, comme l'explique Vanessa Christinet.
Le plus grand enjeu, selon moi, à partir de 40 ans, c'est les risques cardiovasculaires, qu'on doit déjà évidemment traiter avant, puisque c'est des risques chroniques qui existent pour certains depuis plusieurs années. Mais c'est vrai que les hommes ont cette fragilité à partir de, au niveau cardiovasculaire plus que les femmes. Donc les problèmes cardiovasculaires vont statistiquement survenir plus tôt. Après, ça dépend aussi beaucoup d'autres facteurs de risque. Et ça, c'est très important, je pense, de faire le bilan un peu de ces risques et d'essayer d'influencer pour les diminuer au maximum afin d'éviter les problèmes qui sont quand même la première cause de mortalité chez les hommes, c'est-à-dire les problèmes cardiovasculaires, infarctus, AVC et autres.
Comment on explique que les hommes soient davantage concernés ?
Il y a des facteurs de risque qui étaient jusqu'alors peut-être plus présents chez les hommes, comme le tabac, qui est un des facteurs de risque cardiovasculaires les plus importants. Mais il y a aussi des facteurs génétiques, probablement des facteurs hormonaux. Les femmes sont protégées par les hormones jusqu'à la ménopause, et c'est pas le cas des hommes. Donc les risques cardiovasculaires sont plus importants chez les hommes. Après, il y a des facteurs génétiques, familiaux. En général, si on a une famille avec dont on sait que le père a eu des problèmes cardiaques assez jeunes ou en tout 50 ans, on va être probablement plus attentif aux risques chez les enfants, qu'ils soient hommes ou femmes, mais en particulier chez les hommes. Et puis après, il y a toutes les questions liées au cholestérol, au diabète, à l'hypertension, le tabac. Et ça, c'est des choses qu'on peut influencer. La génétique, on ne peut pas la changer, elle est comme ça. Par contre, c'est des facteurs de risque cardiovasculaire modifiables sur lesquels on peut avoir un impact. Et ça, je pense que c'est absolument essentiel de monitorer, donc de mesurer ces risques. Et ça, je pense qu'à 40, 50 ans, si on a des risques dans la famille, il faut, je pense, faire un bilan pour pouvoir justement évaluer ces risques, permettre de les corriger afin de pouvoir avoir des problèmes le plus tard possible.
Vanessa Christinet, médecin et responsable du Checkpoint de la Fondation Profa. Elle vous répondait, Karine Joriot.